savez que chaque mercredi, on aborde un sujet hein, qui touche directement la vie des étudiants au Congo. Nous irons tout à l'heure à Kisangani pour parler de l'Institut supérieur pédagogique de Bouta, institut supérieur situé à 325 km au nord de Kisangani. Cet institut, il faut le dire, se meurt à petit feu. Pourquoi? On en parle dans un instant.
À Kisangani, sur 94,8.
Et vous êtes les bienvenus, vous êtes les bienvenus pour réagir à ce sujet au 081 070 2050. Étudiants, écrivez-nous aussi, vous qui êtes sur Internet, écrivez-nous à action@radiookapi.net. Alors je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient le faire, n'hésitez pas. On va donc aller sans plus tarder là-bas pour retrouver Godlive Omondo qui va bientôt être en ligne. Retenez néanmoins que l'Institut supérieur pédagogique de Bouta, situé à 325 km au nord de Kisangani, se meurt à petit feu. Cette institution supérieure d'enseignement pédagogique manque aujourd'hui d'infrastructures adéquates pour son fonctionnement, pas non plus de nouveaux manuels pour la formation des étudiants. Selon le nouveau directeur général de cet établissement, cette situation est consécutive aux guerres successives qui ont sévi dans la région. Étienne Teka Bileba, c'est son nom, lance ainsi un cri d'alarme à toutes les personnes de bonne volonté pour sortir l'ISP Bouta du gouffre dans lequel il est plongé. Peut-être que cet appel a été entendu par tous ceux qui nous suivent et notamment par les mécènes. On va donc retrouver Godlive Omondo qui est en ligne. Bonjour Godlive, Jambo Abarikani.
Jambo Nicole, là-bas nous aussi.
Vous avez séjourné là-bas récemment donc à Bouta. Quelle est la situation actuelle de l'Institut supérieur pédagogique de Bouta? Peut-être que moi je n'ai pas tout dit, il y a peut-être des éléments que vous aimeriez compléter.
Oui Nicole, la situation à l'ISP Bouta laisse beaucoup à désirer. L'Institut supérieur pédagogique de Bouta, dont la capacité d'accueil est d'environ 2000 étudiants, n'en compte aujourd'hui qu'une centaine. Les 8 départements qui l'organisent sont quasiment déserts. Et plusieurs enseignants qualifiés ont quitté Bouta à cause de la dernière rébellion et l'effectif d'enseignants est passé de 114 en 1997 à 37 actuellement. Etienne Teka Bileba, c'est lui le nouveau directeur général de l'ISP Bouta. Il nous peint le tableau sombre de son établissement.
À mon arrivée, j'ai trouvé un certain nombre de problèmes parmi lesquels l'insuffisance en enseignants, la sous-qualification des enseignants. Nous avons trouvé un nombre très réduit d'étudiants. Nous avons trouvé les infrastructures délabrées. Il y a insuffisance de salles de cours, il n'y a pas d'écritoire, il y a un nombre très réduit d'écritoires. Nous avons trouvé le problème de mise en congé technique, c'est-à-dire un certain nombre d'agents qui est mis en congé technique suite à l'insuffisance de l'enveloppe salariale.
Voilà, donc beaucoup de problèmes à l'Institut pédagogique de Bouta. Peut-être que là où vous nous suivez, vous avez les mêmes problèmes. N'hésitez pas à nous en parler au 081 070 2050, puisque tout à l'heure, juste après le point avec Godlive Omondo, nous recevrons dans cette émission le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, M. Théo Barouti, sera là pour répondre à toutes vos questions. Godlive Omondo, on va évoluer sur cette question concernant l'Institut pédagogique de Bouta. Nous savons que cet institut existe, mais comment s'organise-t-il aujourd'hui, hein, puisque même s'il se meurt à petit feu, les étudiants étudient. Alors comment il s'organise pour que les étudiants puissent être formés? Et qu'est-ce qui serait, selon vous, à la base de la non-qualification des enseignants?
En école, la majorité des cours à l'IST Bouta sont dispensés par des assistants. Ces derniers ne peuvent pas publier leurs articles par manque de la documentation. Et quelques-uns qui sont devenus aujourd'hui chefs des travaux ont soit publié à Kinshasa ou encore à Kisangani. Alain Mutombo est l'un d'eux.
Nous avons deux problèmes au niveau de la communication avec l'extérieur. Problème de manuel. Les manuels que nous avons sont vraiment vieux. Nous n'avons pas d'occasion pour les renouveler. Il faudrait que nous occupions notre propre bâtiment. On vous l'a dit, le bâtiment, l'infrastructure est à la rive gauche. C'est question de la réhabilité, qui est quand même assez d'étudiants, parce que nous avons des auditeurs, des auditoires dépourvus d'assez d'étudiants. Et de deux, il y a le problème de promotion. Nous avons beaucoup de problèmes. Si aujourd'hui nous sommes passés chefs de travaux, c'est parce que nous avons publié ailleurs à Kinshasa. Certains de nos collègues éprouvent des difficultés d'avoir la lecture de travaux, des projets d'articles. La maison même, notre maison, centre d'animation pédagogique n'est pas fourni en matériel. Franchement, nous avons beaucoup de problèmes.
Beaucoup de problèmes à l'Institut pédagogique de Bouta. Aujourd'hui, étudiants de Bouta, on parle de vous. C'est l'occasion de poser vos questions, de nous dire concrètement ce que vous aimeriez que l'on donne comme réponse, notamment le ministre que nous allons recevoir tout à l'heure vous donnera comme réponse au 081 070 20 50. Gobli Bomondo, nous savons que l'effectif aujourd'hui à l'Institut pédagogique de Bouta, l'effectif des enseignants est passé de 114. C'était en 97 qu'il y avait 114 enseignants. Aujourd'hui, on n'a plus que 37 actuellement. Et pourtant, l'ISP Bouta est l'une des institutions de référence de la ville provinciale, de la province provinciale. Mais aujourd'hui, il est presque dépourvu aussi d'étudiants. Comment le peu d'étudiants qui restent jugent-ils leur formation?
Oui, vous l'avez dit, Nicole, cette institution attirait autrefois plusieurs étudiants de la province orientale et même du nord de l'Équateur. Mais aujourd'hui, le peu d'étudiants qui y fréquentent disent n'avoir pas de moyens pour aller étudier ailleurs. Ils remettent même en cause la situation qu'ils reçoivent et suivant le témoignage d'un étudiant.
Oui, nous avons des anciens manuels. Nous n'avons pas de nouveaux manuels dans notre bibliothèque. Tout ça, ça ne constitue pas une bonne formation dans notre institution. Oui, nous avons passé dans des classes supérieures, dans beaucoup de difficultés. Nous attendons le gouvernement quand il va arranger notre institution.
Voilà, les étudiants donc attendent encore que le gouvernement arrange l'institution, notamment l'Institut pédagogique de Bouta. Mais quelles sont les stratégies locales mises au pied en attendant par le nouveau comité de gestion pour pallier à cette situation, Godelive?
Le nouveau DG de l'ISP Bouta, Saint-Vestine Nicole, a relevé cette institution. Il lance d'ailleurs à ce sujet un SOS pour sauver l'ISP Bouta, plongé complètement dans le gouffre. Il s'appelle Étienne Tekabiliba.
J'adresse un cri d'alarme à toute personne de bonne volonté. L'ISP Bouta est au bord du gouffre. Nous sommes en train de chercher les secouristes. Et nous voyons la population, nous voyons les hommes d'affaires, nous sommes en train de voir les confessions religieuses. Nous sommes en train d'appeler tout le monde, que chacun mette la main dans la pâte pour sauver cet institut supérieur qui nous a formé. L'ISP a rayonné dans les bases ULE, l'ISP a formé beaucoup de gens. Aujourd'hui, si l'image de l'ISP un peu a baissé, c'est à cause des guerres. Donc toutes ces guerres qui sont venues après, mais nous sommes en train de nous battre, nous importons le professeur de Kisangani. Nous allons pour la qualification, nous allons faire un effort, organiser le départ vers Kisangani d'un certain nombre d'enseignants pour la formation en DS.
Voilà, donc l'ISP Bouta se bat aujourd'hui pour continuer à rester en vie, parce que vous savez que situé à Kisangani, en tout cas au nord de Kisangani, cet institut se meurt à petit feu. Godelive Omondo, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet?
Oui, sachez Nicole que l'Institut supérieur pédagogique de Bouta est le fruit du transfert de l'ISP Kisangani en 1985 par un arrêté ministériel.
Merci beaucoup, Godelive Omondo, Aksan Tissana. Sachez que nous allons recevoir tout à l'heure le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, M. Théo Barouti. Il sera là pour répondre à toutes vos questions. Les questions, il faut les poser au 081 070 20 50. Allez, à la prochaine, Godelive.
Merci, Aksan Tissana.
Yo Nina, Okosa Kabambi Dine Bale Kosa la Kana Kouran, Neti Lelo et Bale la Gombe Moline, et Bela Kabunda Terre. Gina Kikunda, Isabelle Bédier, Jérôme Bikouki.
Amina Tamani sans toi, et comme il fragile, nous collabons mon ami. Et Vanessa Bolina na yo, ma bambi kota kiska, ma singa ya suki ye ye ye. Lokola na lingi wa minata, monye sucre, si kanandima etumba na bandoyi. Yonete ya nete na bomba na sana sango ya moyi, beto nangana la lila kana sango wa busu. Na ba ento feliz.
pas danger. Pour l'amour, il que tu les nananos sont posés la taille. Si la yotoun de la main, la renvoie à misère. Voiture en destination, y'a bolimo, n'a soit wakiye.
Merci de nous suivre partout en République démocratique du Congo et précisément à Kisangani sur 94.8. Nous parlons de l'Institut supérieur pédagogique de Bouta, institut supérieur situé à 325 km au nord de Kisangani. Il faut savoir que là-bas, l'Institut supérieur se meurt à petit feu, donc à Bouta. Raison pour laquelle nous avons jugé bon de recevoir aujourd'hui le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Théo Barouti. Il est en ligne, il est là pour répondre à toutes vos questions. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre aux questions des auditeurs. J'aimerais que, avant que nous entrions dans le vif du sujet, que vous puissiez écouter quelques réactions des auditeurs qui nous ont appelés au 081 070 2050. Il y a notamment Didier Lofoli, depuis Lubumbashi, qui nous dit « Que pensent surtout ceux qui ont été à l'origine de la création de l'ISP Bouta, comme le professeur Mukunda Bonza et consorts ?» Donc, il paraîtrait que c'est lui qui a été à la base de la création de l'ISP Bouta. Bon, comme on ne l'a pas en ligne, malheureusement Didier Lofoli, il ne peut pas vous répondre. Autre réaction de Roli Boukassa qui dit « Les autorités académiques doivent prêter toute leur attention devant les circonstances pareilles. » Parce que vous savez, monsieur le ministre, cet institut se meurt aujourd'hui et à petit feu. À l'EFEMA, depuis Harou, nous dit « Quelle différence y a-t-il entre institut supérieur et université ?» Et enfin, on termine avec la réaction d'un auditeur, il s'appelle Hilaire Lissimon, qui nous dit « Je vous remercie d'avoir pensé à ce district si longtemps oublié comme l'Australie, même par ses fils, longtemps membres du gouvernement. » Donc, je crois qu'il s'adresse directement à vous, hein, Monsieur Hilaire Lissimon, Monsieur le ministre. Alors, j'aimerais savoir, pour commencer aujourd'hui, qu'en est-il de cet institut? Est-ce que réellement, vous l'avez oublié comme l'Australie?
Non, non, merci d'abord pour la question. Je crois que c'est une opportunité pour nous pour parler de l'arrière-province, l'arrière-pays, par rapport à tout ce qui se dit à Kinshasa. Radio Capri est toujours à la pointe de l'actualité.
Merci.
Alors, je voulais d'abord dire que la création de l'ISP était faite dans le cadre du rapprochement des universités avec la population. L'ISP Bouta a été créé à cette occasion par le ministre, sur l'initiative du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Et Dieu merci, c'était un fils du terroir qui était à la tête de ce ministère à l'époque, comme
oui.
aujourd'hui.
Oui.
Bon, aujourd'hui, vous parlez de l'ISP, effectivement, la première chose que nous voulons, c'est qu'une attention particulière a été faite à l'endroit de l'ISP Bouta, par la nomination des nouveaux comités de gestion, parce que, à notre qualité d'ancien gouverneur, nous avons effectivement compris que l'ISP se mourait et qu'il fallait donner un souffle nouveau en mettant un nouveau comité de gestion dès que nous sommes arrivés à la tête du ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Il s'agissait donc au comité de gestion de nous faire l'état des lieux pour que nous puissions voir dans quelle mesure orienter les actions du gouvernement pour la réhabilitation de cet institut qui a la charge de former l'élite.
Oui, et on vous a fait l'état des lieux, j'imagine, mais je voudrais quand même vous rappeler qu'aujourd'hui, à l'ISP Bouta, l'institution supérieure manque d'infrastructures adéquates pour son fonctionnement. Il n'y a pas non plus de nouveaux manuels pour la formation des étudiants. J'irai même plus loin, il n'y a pas d'écritoire pour les étudiants, vous vous rendez compte? Donc finalement, je crois que cet institut, d'ici là, n'existerait même plus ici au Congo, hein.
Bon, vous savez, je crois qu'un de vos auditeurs a dit que il y a le problème que notre pays a connu, l'instabilité, et une des causes de cette infrastructure qui se dilapide.
Oui, mais on peut réhabiliter. On peut réhabiliter le bâtiment.
La réhabilitation, il faut d'abord savoir faire un état des lieux, madame, et je crois que c'est ce qui est en train de se faire. Pour l'instant, nous sommes en plein milieu de l'exercice budgétaire. Donc, nous pensons que pour l'année académique 2006-2007, nous allons avoir une oreille attentive pour l'ISP Bouta dans le cadre du budget d'investissement.
Oui. Donc, on retient une chose, c'est qu'en ce moment aussi, il y a eu une équipe qui est allée à Bounia pour aller faire l'état des lieux, monsieur le ministre.
D'abord, nous-mêmes, nous avons été là-bas, en notre qualité d'ancien gouverneur. Nous avons vu qu'effectivement, les infrastructures étaient désuètes. Mais aujourd'hui, à la tête, nous avons mis un nouveau comité de gestion. Il lui appartient de nous de mettre à notre disposition l'état des lieux pour que nous puissions intégrer ça dans le budget exercice 2006-2007.
Oui, donc on retient qu'il y a un problème, notamment le problème de manque d'infrastructures. Vous retenez cela pour le budget 2006-2007, donc vous allez réhabiliter les infrastructures là-bas, qui sait, à Bouta et peut-être aussi ailleurs. Parce que les problèmes, il y en a beaucoup ici au Congo, à travers le pays. Les universités ont beaucoup de problèmes. Il y a aussi un autre problème qu'on a retenu, c'est celui du vieillissement du corps professoral et même celui de la fuite des cerveaux. Est-ce que vous comptez résoudre ce problème, le ministre?
Vous savez, d'abord, au niveau du gouvernement, nous avions examiné le statut du personnel de l'enseignement supérieur universitaire. Donc, tout sera réglé au niveau de la promulgation de ce statut qui sera examiné par le prochain Parlement. Et là, ce n'est pas seulement le problème de rémunération, c'est aussi la situation de la carrière. L'évolution de la carrière, la formation, en vue de remplacement de ce cadre vieillissant. Vous savez, depuis 1990, madame, la coopération structurelle a été suspendue et que vous savez, pour former un professeur, il faut un minimum de 5 ans. 5 ans pour un professeur, ce n'est pas quelque chose, donc un coût. Dieu merci, aujourd'hui nous sommes en train de relancer la coopération structurelle et un bon nombre de nos cadres bénéficient de bourses de formation.
Oui, en parlant justement
nous demandons que ceux qui vont en formation puissent revenir à l'issue
de
la
beaucoup ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas.
Prétextant que les conditions ne sont pas toujours élevées, intéressantes.
Est-ce qu'ils ont tort de dire cela, monsieur le ministre?
Comment?
Est-ce qu'ils ont tort de dire que les conditions ne sont pas favorables pour eux ici au Congo?
Non, c'est eux qui le disent. Mais nous pensons qu'il y a quand même un bon nombre de professeurs qui sont là et qui, bon gré, mal gré, ça donne à la formation de nos cadres. Nous-mêmes, nous sommes là.
Oui, vous êtes là, c'est vrai. Mais vous savez que le salaire d'un professeur, ce n'est pas extraordinaire. Le professeur a toujours demandé à ce qu'on puisse revoir son salaire, ne fût-ce qu'à la hausse.
Mais je crois que, madame, vous avez vécu les efforts que le gouvernement a fournis dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Il y a 3 ans, madame, avant la mise en place du gouvernement de transition, un professeur touchait l'équivalent de $35. Aujourd'hui, vous avez le micro, vous n'avez qu'à circuler dans le milieu universitaire. Vous comprendrez qu'un effort a été suffisamment fourni. Pas assez, mais déjà, nous pouvons dire que c'est loin des $35.
C'est à peu près combien aujourd'hui pour un professeur ordinaire? Juste une idée pour les auditeurs qui nous suivent, hein, monsieur le ministre.
Le salaire est secret, madame. Vous avez...
Oui, mais il faut aussi aider les auditeurs, parce que, vous savez, beaucoup auront du mal à croire cela. Hein. Dans la plupart des cas, ils disent toujours, on pense plus à Kinshasa, aux professeurs qui évoluent à Kinshasa, et nous, de l'intérieur, nous sommes oubliés. Est-ce que ce salaire qui a été revu à la hausse est le même pour ceux des professeurs qui évoluent à l'intérieur du pays, notamment à Bouta?
Le salaire est identique, madame. Vous êtes à Aru, à l'université, à l'institut de Aru, comme à celui de Kolwezi. Vous êtes régi par le même statut et vous bénéficiez des mêmes avantages.
Voilà, donc c'est dommage que vous n'avez pas donné une idée hein, du salaire du professeur ordinaire.
Non, j'ai une idée, madame. Si vous voulez, vous n'avez qu'à passer au bureau, vous verrez le tableau barémique, qui est une loi, d'ailleurs.
En tout cas, les auditeurs ne manqueront pas de réagir, ça je le sais, hein, parce qu'ils réagissent toujours au 081-070-2050. Nous savons qu'entre-temps, M. Théo Barghouti, entre-temps, le peu de professeurs qui restent aujourd'hui ici au Congo, parce que la plupart des professeurs sont partis, hein, parce que les conditions sont meilleures ailleurs, dans les pays occidentaux. Alors le peu de professeurs qui restent aujourd'hui au pays prennent de l'âge. D'ici là, il y a à craindre le pire, hein?
Oui, je crois que c'est une réalité, madame. D'ailleurs, nous venions d'enterrer un des grands professeurs que notre pays ait connu, la personne du professeur Kinzongi, connu non seulement par son savoir intellectuel, mais surtout à cause de son zèle en ce qui concerne la musique. Le mélomane se rappelait du plateau. Donc c'était un grand professeur qui s'est spécialisé dans la comptabilité publique. Hein. Aujourd'hui, les codes comptables, le code de la comptabilité, c'est son œuvre. Donc ce sont des grands professeurs qui se mêlent aujourd'hui, mais nous sommes en train de faire un effort pour que la coopération structurée revienne et que des jeunes gens assistant à ces travaux puissent terminer leurs recherches en vue d'accéder au grade de docteur pour que il remplace les
Théo Barghouti, dans bien des cas, on nous parle de la coopération structurelle. Quelles sont les conséquences hein, d'une coopération structurelle? Qu'est-ce que cela aura comme avantage dans le monde de l'enseignement?
Dans le domaine de l'enseignement, la coopération structurelle permet d'avoir des garanties entre États pour prendre en charge ce qui concerne la formation, parce que c'est un problème de bourse. Je vous ai dit, madame, la formation d'un enseignant, c'est au minimum 5 ans. Il faut la recherche, il faut la publication, il faut tout ça. Il faut des voyages. Et ça nécessite une intervention substantielle. Et là, nous ne pouvons l'obtenir que dans le cadre de la coopération, soit bilatérale, soit multilatérale. Et là, c'est une question de stabilité de notre pays. Aujourd'hui, avec le processus électoral, nous pensons, madame, que nous allons droit vers la concrétisation de ces vœux souhaités par tous les Congolais.
C'est ça. Alors, beaucoup de gens vous suivent, je vous l'ai dit, hein, et ils réagissent, Théo Barghouti. Je vais lire encore quelques réactions des auditeurs. Tomé, depuis Mwanda, nous dit, est-ce que, si le ministre peut être très clair, qu'il nous dise un peu, qu'est-ce qu'il va laisser comme souvenir pour cet institut comme il est sortant. Ça, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Moussafiri de la province orientale nous dit, actuellement, les étudiants ont beaucoup de difficultés, par exemple, les frais académiques, il n'y a pas de bourse. Quelle solution le ministre peut nous donner? Autre réaction de John Peter Kézamoudrou, depuis Isiro, dans la province orientale, qui dit, quelle est la politique du gouvernement pour relever le niveau de formation dans les ISP, donc les instituts supérieurs, et dans les universités du Congo? Donc, vous avez trois questions. Je crois qu'il est bon de répondre à toutes ces questions.
Oui, je crois, madame, il faut dire à notre auditeur que le problème de salaire n'est pas seulement au niveau de l'enseignement supérieur, c'est sur l'ensemble, l'ensemble de toute la nation, de tous les secteurs de la vie. Et aujourd'hui, nous l'avons dit, un effort a été fait au niveau de la rémunération en ce qui concerne l'enseignement supérieur, plus que dans tous les autres secteurs. Là, il faut au niveau au moins féliciter le gouvernement. Beaucoup reste à faire, certes, mais il ne faut pas voir l'amélioration des conditions seulement au niveau de la rémunération, mais c'est aussi au niveau des conditions du travail. Vous le savez, nous avons essayé d'alléger tant soit peu les problèmes de transport, en mettant à la disposition des universités et instituts un certain nombre de bus. Ce n'est pas encore suffisant. Mais nous pensons que dans le prochain budget, nous allons prévoir l'acquisition d'autres moyens de transport, soit individuels, soit collectifs.
Oui.
Ça, c'est déjà la première des choses.
Vous
la
pensez...
seconde chose,
oui.
C'est qu'il faut une relance économique, madame. Lorsque nous parlons de l'ISP Bouta, l'ISP Bouta est tributaire de voies de communication. C'est Kisangani Bouta. Alors, vous savez, madame, le tronçon Kisangani Bouta est impraticable. C'est un cul de sac. Il n'y a pas de barque, il n'y a pas de route. Il faut accéder à Bouta par avion. Vous savez ce que ça coûte, un voyage par avion dans notre pays ici. Donc,
il y a beaucoup à faire.
Ou sinon, nous pouvons orienter un effort pour la réhabilitation des infrastructures.
Oui, mais...
Il va entraîner un développement afin que les gens se déplacent, aillent vers l'arrière-pays et voir les réalités qui s'y trouvent.
Concrètement, Théo Barouti, pour répondre à la question de Tomé depuis Luanda, qu'est-ce que vous allez laisser comme souvenir pour cet institut comme il vous a posé comme question?
Des souvenirs, mais il n'y a pas seulement l'ISP Bouta, il n'y a pas seulement l'ISP Kananga, madame. Je crois que c'est une question de planification, de programmation. L'acquisition du matériel, la réhabilitation des infrastructures doivent être prises en compte par le budget. C'est l'instrument de travail d'un gouvernement, madame.
Alors aujourd'hui, quelle est la politique du gouvernement pour relever le niveau de formation dans les ISP ou universités du Congo? Vous avez une idée? Ça, c'est la question que John Peter qui
oui, nous en fait, nous avions, vous savez, madame, dans le cadre de la réforme, il y a le PADEM qui a mis en place un nouveau programme. D'ailleurs, le premier programme, le premier lauréat du programme PADEM sort cette année. Et je crois que les lauréats que nous mettons sur le marché de l'emploi aujourd'hui sont aussi performants que ceux qui sont sortis avant. Et nous sommes convaincus que ce produit sera apprécié parce que nous y avons mis beaucoup d'attention et surtout beaucoup de sérieux pour que ce programme soit en application. Vous avez compris, madame, que les années académiques se tiraient à longueur. Et aujourd'hui, si vous suivez l'actualité, c'est presque tous les instituts, toutes les universités qui ont terminé leur année académique. Nous allons donc revenir à la tradition de l'ouverture de l'année académique le 15 octobre de chaque année.
Théo Barouti, il y a beaucoup de questions qui nous arrivent dans ce studio.
À votre disposition, madame.
Merci d'être à notre disposition. Tout à l'heure, vous nous avez caché le salaire d'un professeur ordinaire, mais un auditeur nous informe que le professeur ordinaire, aujourd'hui, il a $500 américains. Bon, il est
combien?
$500 américains. Est-ce que $500 américains.
Négatif, madame.
Alors, c'est combien le salaire d'un professeur ordinaire?
Bon, madame, je ne voudrais pas que vous insistiez.
Oui.
Je crois que vous avez le micro, vous n'allez qu'à poser la question à un professeur ordinaire.
Ok, on le fera. On ne manquera pas de le faire et puis on va vous réinviter dans ce studio à nouveau.
D'accord.
Mais retenez une chose, monsieur le ministre, c'est que de plus en plus aujourd'hui, le niveau de l'enseignement est en train de baisser hein, pour des raisons que vous connaissez. Hein. Il y a beaucoup de professeurs qui partent. Il y a finalement ceux qui se retrouvent là, ce sont pas des gens qui devraient peut-être former. Hein,
madame, les leaders, un professeur de vous écouter.
Non, mais bon, il y a beaucoup de professeurs qui partent en tout cas. Et certains licenciés éprouvent du mal à lire et à écrire correctement en français. Vous êtes au courant de cela, professeur Théo Barouti?
Oui, mais vous savez, la carrière est un choix. On peut y entrer, on peut y sortir. C'est ça la liberté de quelqu'un. Il ne faut pas obstruer la liberté de quelqu'un. Mais je crois que c'est une vocation. Rester dans l'enseignement supérieur, c'est un plaisir de transmettre le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Il faut plutôt féliciter les professeurs sont là, qui travaillent dans des conditions assez difficiles, mais l'État essaie, le gouvernement essaie d'apporter quelques améliorations. Ce n'est pas seulement dans le secteur de l'enseignement, c'est dans tout le secteur de la vie nationale.
Mais l'enseignement au Congo, du moins, nous avons l'impression que l'enseignement est plus ou moins négligé hein, jusque-là, raison pour laquelle beaucoup préfèrent partir, ou ils estiment qu'ils ont de meilleures conditions salariales, ils ont de meilleures conditions de vie. Aujourd'hui, le professeur, pratiquement, il est abandonné à son triste sort.
Bon, madame, vous savez, en matière de rémunération, tous les théoriciens de la rémunération savent qu'il n'y a jamais un salaire, même le ministre, on ne peut pas dire qu'un ministre a un salaire aussi colossal. Non,
bon.
Je crois qu'il faut plutôt arriver à stabiliser le cadre macroéconomique pour permettre à chacun... Dès qu'il a son salaire, il puisse accéder aux biens de première nécessité afin de tenir le mois.
Ok. Alors, Théo Barouti, je vais lire rapidement les dernières questions parce qu'il y en a tellement. Franchement, je suis embêtée. J'aurais aimé que vous soyez avec nous pour lire vous-même aussi les questions, les SMS des auditeurs. Je vais rapidement les lire, notamment Piroguer, l'IFETA depuis le Lubumbashi. Il vous demande, donc il dit, nous demandons au ministre Théo Barouti de nous montrer son affection envers les institutions de sa province. Voilà la question de cet auditeur. Quel est le montant fixé par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire pour le retrait de nos attestations? C'est Pierre Tengele qui vous pose la question depuis Kindu. Qu'est-ce que vous diriez à ces deux auditeurs?
Mon affection pour l'université de ma province.
Voilà, c'est la question d'un auditeur.
De la République démocratique du Congo, madame. Je crois que j'ai l'affection à l'ensemble des instituts et universités de notre pays. Je les traite de la même manière. Bon, si je suis de la province orientale, bon, c'est peut-être un accident de l'histoire, madame.
Voilà.
Aujourd'hui, en tant que ministre de l'enseignement supérieur universitaire, je dois avoir la même attention pour l'ensemble des établissements de mon secteur, comme
voilà.
Je le fais pour ceux des établissements d'enseignement supérieur.
Donc, vous avez répondu à cet auditeur. Et pour Pierre Tengele de Kindu, quel est le montant fixé par le ministère pour le retrait des attestations?
Bon, le retrait, c'est 25 dollars, madame.
C'est 25 dollars. Alors, il y a un auditeur qui vous demande, Papi, il s'appelle Papi, il dit peut-être qu'à Bouta, c'est encore mieux. Hein. Ici, à l'ISP Arou, le cas est pire. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a même pas de professeur. Vous vous rendez compte, monsieur le ministre?
Nous sommes à la fin de l'année académique, madame. Chaque institut, à l'occasion de la clôture de l'année académique, présente un rapport académique et c'est sur base de ce rapport que nous saurons quels sont les instituts qui sont dépourvus de classes de professeurs, quels sont les instituts ou les universités qui sont pourvus. Et nous pensons que nous allons demander au ministère de la fonction publique de libérer, de nous libérer afin que nous puissions procéder au recrutement de nouveaux cadres. Parce
okay.
que pour mettre un terme à cette carence de professeurs.
Voilà
nous avons déjà suffisamment écrit à ce sujet, madame.
On termine avec la dernière question de Alain Gandou depuis Lubumbashi. On a eu beaucoup de questions de Lubumbashi. Alain vous demande ceci, dit, j'ai fait l'enseignement supérieur privé à l'ISTC Lubumbashi, agréé par l'enseignement supérieur universitaire, où je suis chargé des cours. Pourquoi aujourd'hui l'UNILU ne nous accepte pas pour faire le DES? J'ai une licence en sciences sociales de l'option gestion financière. Qu'est-ce que vous répondriez à Alain Gandou?
Vous savez, madame, l'enseignement supérieur est régi par les normes, par les textes. La création, la formation supérieure suit un programme. Et le programme est réservé à certains établissements, notamment les universités. Donc, des établissements qui... Vous avez parlé de la carence des professeurs.
Mm.
Ce n'est pas tous les établissements qui renferment des personnalités attitrées pour décerner ce genre d'enseignement.
Mm. Ok, voilà, on en reparlera.
Donc, ce n'est pas oui. tous les instituts qui ont dans leur programme la formation des...
On en reparlera, Théo Barouti, parce qu'il y a beaucoup de sujets dans le domaine de l'enseignement.
C'est intéressant, hein. L'enseignement concerne tout le monde. Voilà.
Mais, merci en tout cas pour aujourd'hui d'avoir répondu à nos questions, hein, Théo Barouti. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Encore une fois, merci et à la prochaine.
Merci, au revoir.
Okay. Pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée.
10h59 dans ce studio, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais on ne peut se séparer sans donner la parole à Belinda Boussouma, qui va nous faire le point de l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Belinda.
Bonjour Nicole, bonjour à tous ceux qui sont branchés sur la fréquence de la paix. Sur le premier sujet, symposium sur les neurosciences en Afrique centrale, on a reçu 11 réactions. Salubrité et marché de Kamagema à Bukavu, on a reçu 5 réactions. Et l'Institut supérieur pédagogique de Boutakissem, on a reçu 20 réactions. Merci à tous ceux-là qui ont réagi et à très prochainement.
Voilà, merci à vous aussi, Belinda, de nous avoir présenté aujourd'hui ce point, parce que c'est important de savoir comment nos auditeurs réagissent partout au Congo. Allez, on arrive à la fin de cette émission. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Nous remercions également Sylvain Baogueré, qui était à la mise en onde, et Nuno Ngoy, qui était à la réalisation. Au micro, c'était Nicole Ngaka. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir. Thank you.